Est-ce que vous êtes une victime? Êtes-vous une victime? Si je vous dis trois lettres, F, S, M, êtes-vous une victime? Je parle de FSM Smart et semble-t-il que c'est une entreprise qui en a leurré quelques-uns au Québec. L'AMF est sur le dossier et j'en parle avec notre chroniqueuse économique, journaliste à la presse, Stéphanie Grandmont, est avec moi. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
J'ai tellement pas d'argent que je connais pas ça, moi, FSM Smart.
Ben c'est mieux comme ça, honnêtement. Vaut mieux ne pas les connaître.
Conte-nous
mais,
ça.
Mais en fait, c'est vraiment un groupe de bandits qui font des appels téléphoniques et qui essaient de pincer les gens. Et ce qui est à peu près, ça m'est jamais arrivé en carrière, j'étais en train de rédiger une chronique sur ce groupe-là après avoir parlé à l'AMF la semaine dernière, après avoir parlé à des victimes, et comme par magie, mon téléphone cellulaire a sonné vendredi, en fin de journée, et oui, c'était eux, par le plus grand des hasards, qui essayaient de me vendre leur salade,
mais
ils ne sont pas tombés vraiment sur la bonne fille.
Ben non.
Mais je les ai laissés aller pendant une demi-heure, puis ils sont vraiment habiles. Ils essaient de nous emberlisticoter, ils nous amènent sur leur site internet qui est quand même assez sophistiqué, assez bien fait. Ils nous parlent de compagnies qui existent au Québec comme Vidéotron, toutes sortes de références au Québec. Ils mélangent même un peu de joual québécois dans leur langage parce que l'accent qu'ils ont est plutôt européen, mais on voit qu'ils essaient de faire exprès là pour mettre des expressions québécoises. Puis d'ailleurs, ils empruntent des noms québécois. Moi, la personne à qui j'ai parlé s'appelait Alain Dupuis. Je pense pas que ce soit un vrai nom. Ce qui est encore plus ratoureux, c'est que ce sont des noms qui existent vraiment dans le registre de l'autorité des marchés financiers. Donc, un investisseur averti là, qui veut vérifier si le courtier avec lequel il fait affaire est bel et bien enregistré va aller sur ce registre-là. Et comme ils empruntent des noms qui sont sur le registre, la personne qui ne vérifie pas l'entreprise pourrait se faire berner. Alors, ils sont quand même assez habiles. Bon, évidemment, moi, c'est sûr que au bout d'un certain temps, là, j'étais un peu insultée. Je leur ai lu au bout du fil une mise en garde que l'AMF a mise sur son site Internet pour avertir les consommateurs, les investisseurs de ne pas faire affaire avec cette entreprise-là qui n'a pas de permis pour exercer ses activités de courtier au Québec. Et de toute façon, c'est des voleurs. L'AMF a reçu environ 75 plaintes là, au cours des derniers mois. Il y a des gens qui ont perdu au total pour 1 million de dollars. À lui seul, il y a un investisseur qui a perdu 600 000 dollars.
Wow.
Puis, apparemment, c'était quelqu'un qui était quand même assez aguerri. Alors, l'AMF, voyant tout ça, fait une mise en garde. J'ai lu ça à la personne au bout du fil. Au lieu de se repentir, oh non, pas du tout, là, ils m'ont dit Madame Grandmont, on est victime d'usurpation d'identité. Cette entreprise-là a volé notre identité. C'est pas nous, là, c'est nous-mêmes qui avons alerté l'AMF pour que ça arrête. Je dis, écoutez, là, le site sur lequel vous venez de m'envoyer, c'est la même chose. Là. Je dis, vous êtes des voleurs, vous n'avez pas honte. Je parlais à des victimes cette semaine, des gens qui ont perdu leur argent. Je dis, comment vous vous sentez? Ah non, là, il n'était pas prêt à avouer qu'il était un voleur. Enfin, il y avait plus de discussion possible. J'ai fini par raccrocher. Mais c'est quand même vraiment triste. Le fait que j'ai eu un appel comme celui-là, je pense que ça démontre qu'ils sont vraiment très actifs. Et puis, après la publication de ma chronique, j'ai eu un paquet d'appels ou de courriels de gens qui m'ont dit qu'ils avaient reçu des appels de cette entreprise-là aussi. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. Et ils sont pas les seuls. C'est pas un stratagème qui est complètement nouveau, là. On a déjà vu ça. C'est peut-être même les mêmes bandits qui changent de nom parce que c'est tellement facile maintenant de s'enregistrer aux îles Moukmouk puis après ça de déménager aux îles je sais pas quoi. Les policiers peuvent bien essayer de les retracer, mais c'est quand même très facile là, de déménager. Alors, ce stratagème-là, il faut s'en méfier comme investisseur, il faut être vigilant. Ce qui est particulièrement difficile dans ce cas-ci, c'est que les produits dont ils parlent, ce sont des produits relativement communs, là, des actions, des obligations, donc des produits qu'on pourrait acheter chez un véritable courtier. Alors que d'autres bandits qu'on a vus dans le passé, ils vantaient souvent des actions binaires ou des transactions un peu particulières sur des devises. Donc, juste ça pouvait mettre la puce à l'oreille. Là, on pouvait dire, ouais, c'est des drôles de placements. Mais là, dans ce cas-ci, c'est quand même des trucs qui sont relativement standards. La seule chose, c'est qu'ils nous promettent des rendements astronomiques. Alors, il faut se dompter. Il faut se dire, quand ça n'a pas de bon sens, là, quand c'est des rendements mirobolants qu'on nous promet, ben c'est trop beau pour être vrai. Ça veut dire que c'est pas vrai. Et puis, ça vaut pas la peine de faire le test puis de mettre un sou là-dedans.
Comment ça marche, par contre, Stéphanie? Je lisais l'article. On parle de pre-market. Quoi, c'est un site web où est-ce qu'on met de l'argent avec la carte de crédit? Puis comment ils font pour nous voler cet argent-là?
Ben en fait, ils utilisent une plateforme, puis ça aussi, c'est très ratoureux, c'est qu'ils utilisent une plateforme transactionnelle qui est une plateforme légitime et qui est utilisée par beaucoup d'autres courtiers. Et donc, ça s'appelle MetaTrader 4, c'est une vraie plateforme. Donc, les gens envoient leur argent. La victime à qui j'ai parlé a fait envoyer 5 versements de 2 500 $ américains par carte de crédit. Il y a eu un compte qui a été ouvert, donc il a vu son argent atterrir sur la plateforme MetaTrader et donc il s'est mis le contrat pre-market qu'on lui avait expliqué, c'est qu'il faut faire plein d'argent juste avant l'ouverture des marchés. Mm-hmm. Bon, c'est une drôle d'affaire là, honnêtement. Lui, il a investi cet argent-là, puis le matin même, on lui a dit, puis il voyait sur son compte qu'il avait fait presque 5 000 $ US de profit. Juste en un matin, là, il était excité, fou de joie.
Ouais.
Au bout du fil, là, le courtier lui disait qu'il était pour y envoyer une bouteille de champagne. En tout cas, c'était la grosse affaire. Mais là, quand il a voulu retirer son argent, là, d'un coup, le courtier se défilait. Donc, il était à l'extérieur, il était en formation, il n'était pas disponible. Il n'était plus capable d'avoir accès à son compte. Tous ses mots de passe étaient bloqués. Et il voyait par contre que le courtier continuait de faire des transactions qui n'étaient pas autorisées et il était incapable de l'arrêter. Alors, c'est un peu ça qui se passe. Et finalement, je pense qu'il n'y a rien à faire. Il a essayé pendant des mois de récupérer son argent. La seule chose qu'il a eu comme réponse, c'est « Envoyez-nous des renseignements, une preuve de résidence, votre carte de crédit, patati patata. » En fait, tout ce qu'il faut pour lui voler son identité puis le mettre encore plus dans le pétrin.
Mais ouais.
Donc, heureusement, il n'a pas fait ça. Il a suivi les recommandations de l'AMF. Et donc, on lui a dit de couper les ponts, de porter plainte à la police, de placer une alerte auprès des agences de crédit Equifax et TransUnion. Donc, quand on suspecte qu'on peut être victime de fraude ou de vol d'identité, c'est le réflexe à avoir. C'est que ces agences-là vont pouvoir bloquer un éventuel vol d'identité. Et donc, malheureusement, ça va être difficile de récupérer son argent. La seule chose, c'est que la victime en veut à la banque qui a laissé passer ces transactions-là. L'émetteur de sa carte de crédit était un peu méfiant. Ils ont vérifié son identité. Ils lui ont même demandé de se rendre en succursale pour s'assurer que c'était bien la bonne personne. Mais ils lui ont jamais dit « Monsieur, savez-vous, c'est un groupe de fraudeurs. Vous ne devriez pas faire ça. » Donc, ils se sont protégés eux, mais ils n'ont pas protégé leurs clients. Alors, à voir si la banque peut être tenue responsable de tout ça d'une certaine façon. Moi, je pense que les institutions financières qui servent d'une certaine façon de courroie de transmission aux fraudeurs, parce que l'argent, ça passe par là, ils ont une part de responsabilité dans tout ça. Mais sinon, moi, ce qui me frappe aussi dans toute cette histoire-là, c'est que les mœurs changent. Les gens maintenant, les jeunes particulièrement, sont pas très réticents à faire affaire en ligne avec quelqu'un qu'ils connaissent pas nécessairement. C'est devenu dans leur culture, alors que les gens plus âgés, il faut qu'ils aillent dans une vraie succursale bancaire, etc.
Ouais.
Les jeunes, eux, ils se disent, ben, on va aller sur le web, ça va être plus rapide, on va économiser des frais. Mais sauf que les fraudeurs ont compris cette tendance-là. Et puis, on va peut-être économiser des frais, mais on va perdre tout notre argent.
Merci beaucoup d'avoir allumé nos lumières là-dessus. Puis évidemment, il faut avoir confiance et avoir une référence vers l'AMF dans de telles situations.
Oui, très bon conseil.
Merci, Stéphanie.
Merci.
À la semaine prochaine. Bye-bye. Stéphanie Grandmont, chroniqueuse économique à La Presse.